Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Peggy, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir, mais une édition spéciale arrivée du tour jusqu'à 19h30 et ensuite avec Isabelle Langer jusqu'à 20h. Vous allez donc pouvoir vivre comme si vous y étiez l'arrivée de la Grande Boucle sur les Champs-Élysées dès 18h30 d'ailleurs avec le patron, le directeur du Tour de France. Il sera avec nous, Christian Prudhomme. Et puis bien sûr avec l'équipe d'RTL qui vous a accompagné tout au long de ces trois semaines. Christophe Paco, Nicolas Georgerot, Raphaël Vantard. Avec nous également pour dresser le bilan de ce Tour 2020, Christian Laborde, Roger Leger. Et puis on sera avec deux directeurs d'équipe, Jean-René Bernodeau et Marc Madiot. Voilà pour le plateau. Oui, c'était pas un tour comme les autres. Et oui, la victoire finale de Pogacar qui s'est jouée hier marquera aussi son histoire. L'arrivée sans doute après 19h, des points réguliers de toute façon avec Christophe Paco. C'est d'ailleurs à vous, Christophe.
C'est l'entrée dans Paris, Vincent, il y a quelques secondes seulement. Et le maillot jaune en tête, comme le veut la tradition, avec autour de lui son équipe, parée de magnifiques chaussettes jaunes. Aujourd'hui, on le comprend, pour fêter comme il se doit l'incroyable, insouciant, le phénoménal Tadej Pogacar. Les Champs-Élysées, dans 3 minutes, on sera avec la moto RTL de Nicolas Georgerot en direct toute cette soirée, bien sûr.
Oui, bah, écoutez, on va vous retrouver pour cette arrivée, ce premier passage sur les Champs-Élysées dans un instant. Dans l'actualité également, le Gard, évidemment, département qui pense ses plaies au lendemain d'orages et d'inondations qui ont fait 2 disparus. La situation revient peu à peu à la normale, à Anduze. Le gardon sorti de son lit a bien baissé. Maintenant, les habitants nettoient la boue accumulée. Les ministres Gérald Darmanin et Barbara Pompili vont arriver sur place. Encore de l'espoir pour l'usine Bridgestone de Béthune. Oui, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, invitée du grand jury sur RTL, annonce que la direction a signé vendredi dernier un accord de méthode avec les salariés, les syndicats, pour discuter pendant 5 mois de scénarios alternatifs à la fermeture. Vous entendrez la ministre et puis ce qu'on dit du côté de Force ouvrière. La France face à l'épidémie de Covid. Lyon doit prendre demain des mesures de restriction après Bordeaux et Nice. Mais pour le patron du syndicat SAMU Urgence, plus de doute, la France affronte bel et bien une deuxième vague. Vous l'entendrez. Au menu également, la fin des journées du patrimoine. On ira au palais idéal du facteur cheval. Le spectacle exceptionnel de la Grande Marée au Mont-Saint-Michel. Une nouvelle victoire, une de plus pour Toyota aux 24 heures du Mans. Et puis le football. Le PSG est allé dominer largement Nice, 3-0. Brest a battu Lorient, 3-2. Metz a battu Reims, 2-1. Victoire large de Montpellier sur Angers, 4-1. Et succès également de Strasbourg face à Dijon, 1-0. Depuis 17h, Nantes affronte Saint-Etienne. On en est où, Philippe Audouin?
C'est la mi-temps, Vincent. 1-0 pour Saint-Etienne, le leader du championnat. Premier but en Ligue 1 de l'ancien Parisien Adil Aouchiche, 18 ans seulement, but marqué après 70 secondes de jeu.
Voilà, ça a été rapide. Et puis ce soir à 21h, Marseille-Lille, dernier match de cette journée de championnat à suivre sur RTL, dans RTL Foot de 20h à 23h. Sachez qu'en rugby, eh bien c'est fait, Toulouse est en demi-finale de la Coupe d'Europe après sa victoire sur l'Ulster. Le temps, Valérie Quintin, encore des orages, mais moins violents, je crois, dans le sud-est demain.
Oui, ça va s'arranger quand même assez nettement. Déjà, la matinée sera relativement bien ensoleillée, ce qui va vraiment changer les choses. Ensuite, il y aura à nouveau quelques orages dans l'après-midi entre les Alpes-Maritimes et la Corse, mais rien de trop sérieux. En revanche, il faudra surveiller plutôt l'Aquitaine en fin de journée, où on pourra avoir de violents orages également. Sinon, les deux tiers sud du pays vont conserver un ciel assez chargé, des averses orageuses fréquentes, alors que le soleil se maintiendra entre le nord, le bassin parisien et le Grand Est. Les températures, ça bouge pas. 6 à 19 degrés au réveil des Ardennes à la Corse, 18 à 29 l'après-midi, 21 pour Bordeaux, 23 à Brest et Clermont-Ferrand, 25 à Lyon, 26 degrés à Lille et Strasbourg, 28 pour Paris. Quant à la semaine, mardi et mercredi seront à peu près identiques, tant au niveau du ciel qu'au niveau des températures. Ça pourrait commencer à se gâter un petit peu partout à nouveau jeudi et vendredi. Et surtout, les températures baisseront assez nettement.
Merci Valérie.
RTL, dimanche soir.
Édition spéciale Tour de France.
Allez, on monte sur le vélo, ce sera notre fil rouge bien sûr pour cette édition spéciale consacrée à l'arrivée du Tour. Vous allez la vivre, cette arrivée d'un Tour de France si particulier. Christophe Paco, la dernière étape, c'est pas une étape comme les autres, c'est une fête, c'est une récompense, surtout en ce moment, puisque le peloton arrive sur les Champs-Élysées.
Quelle image, hein, qu'est-ce qu'elle est belle, 3 semaines après tant d'interrogations, ça y est, le peloton rentre sur les Champs. Nicolas Georgerot sur la moto RTL.
Après avoir passé la rue de Rivoli, après avoir remplacer la place de la Concorde. Ce peloton qui accélère et qui va donc remonter les Champs-Élysées pour le premier passage sur la ligne. Il y a eu aussi les images majestueuses dans le passage de la cour carrée du Louvre comme l'année dernière. Et donc ensuite cette rue de Rivoli, les coureurs avec ce peloton très étiré qui va prendre de la vitesse.
Voilà, c'est le premier passage qui arrive, hein, Vincent Parisot, avec le maillot jaune en tête, bien sûr. Tadej Pogacar, et ensuite la course va pouvoir commencer vraiment avec des tentatives d'échapper, on ne sait jamais, ou alors un sprint extraordinaire d'ici une bonne heure maintenant sur RTL.
Bon, on va vous retrouver évidemment régulièrement, on commencera dans quelques minutes, et puis donc à 18h30, je le rappelle, notre édition spéciale, avec notamment dès 18h30, l'interview du patron du Tour, Christian Prudhomme.
Vincent Parisot, RTL dimanche soir.
Deux personnes sont donc portées disparues après les intempéries qui ont frappé le département du Gard, où la situation revient progressivement à la normale. La disparition d'un homme pratiquant le trail, c'est-à-dire la course en montagne, dont on est sans nouvelles depuis samedi dans le secteur de Pondéreau, a été déclarée ce matin. On ne l'a pas retrouvé. C'est dans ce même secteur qu'une aide-soignante de 64 ans a été emportée dans sa voiture par l'Hérault en crue. Elle est toujours recherchée. Cet épisode orageux très violent est donc terminé. Quelle est la situation ce soir dans le Gard? Écoutez le capitaine des sapeurs-pompiers du département, Ludovic Billa. Il est avec Valentin Boissé.
Nous avons deux opérations de recherche qui sont en cours sur le département du Gard. Une dame d'environ 65 ans qui était dans son véhicule et qui a été emportée par les eaux. On a localisé son véhicule, mais la personne reste introuvable. On a une deuxième opération de recherche qui concerne un homme dont on est sans nouvelles depuis hier midi, des recherches qui sont menées par des équipes de sapeurs-pompiers au sol. Le problème qu'on a, c'est que les moyens téléphoniques et radio sont impactés. Concomitamment à ces opérations de recherche, on mène aussi d'autres actions, rétablir les axes de circulation, de manière à ce que l'ensemble des services puissent accéder aux zones sinistrées. On a une partie du dispositif qui sera suspendue cette nuit, et des opérations qui reprendront dès le lever du jour demain matin. Et c'est une opération qui va durer plusieurs jours.
Voilà, le capitaine des sapeurs-pompiers du Gard avec Valentin Boissé. Les ministres Gérald Darmanin et Barbara Pompili vont arriver sur place d'une minute à l'autre. Gonflés par les pluies, des cours d'eau comme le Gardon donc, ont connu hier des crues très rapides. Par exemple, pour le Gardon, une hausse de 6 mètres en 2 heures, ce qui a forcé évidemment les autorités à évacuer des centaines de personnes. Elles ont donc pu, depuis, regagner leur domicile. Les centres d'accueil ont pu fermer, mais si les crues sont passées, les dégâts, eux, sont restés à Anduze. C'est vrai, le Gardon a baissé à un niveau quasi normal, mais les habitants des quartiers touchés par la montée des flots terminent seulement de nettoyer la boue accumulée après la décrue. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial Étienne Baudu dans l'un des restaurants les plus touchés d'Anduze. Il a été envahi par un mètre d'eau.
Sur le trottoir, on croise d'abord Christian, sapeur-pompier venu de Haute-Garonne, en renfort, raclette à la main, il s'active.
On vient de Haute-Garonne et on est là, et bien on file un coup de main, on aide à nettoyer, à déboucher, à vider les caves. En 2013, on a été inondé à Saint-Béat, donc on sait ce que c'est.
Alors on aperçoit au fond du restaurant Camille, la chef de salle, elle se désole en constatant le capharnaüm qui règne dans la cuisine, qui a été submergé. Tout est à jeter, absolument tout.
Donc tous les frigos, tout le matériel est bousillé. Sachant que le stock de magret, d'entrecôte, de bœuf, tout est foutu. On ne sait pas si ça va être pris en charge ou pas, on espère. Ça fait mal, quoi.
Alors heureusement, Camille peut compter sur ses collègues des autres restaurants qui n'ont pas été touchés, mais aussi sur de nombreux habitants qui se sont portés volontaires. Avec l'outil du jour, hein, la raclette, les deux Virginie, des éclaboussures de boue sur les joues, frottent vigoureusement le sol.
De la boue et de la boue, toujours de la boue. On n'en sort pas depuis ce matin. Bien sûr, là, vous voyez, il y a du monde partout, tout le monde s'inscrit, tous solidaires.
Voilà, solidarité dans ces cas-là, ça marche bien, quoi, et encore heureux. On a tous besoin de ça en ce moment.
On a eu le Covid, maintenant c'est les inondations, on a eu notre lot pour 2020.
Et malgré cette belle solidarité et les efforts de chacun, Camille reste peu optimiste sur une réouverture prochaine du restaurant.
Un reportage signé Étienne Baudu, envoyé spécial d'RTL dans ce département du Gard, donc durement touché hier soir par ces intempéries. On marque une pause et dans un instant, un sursis pour Bridgestone.
RTL dimanche soir,
édition spéciale Tour de France.
RTL dimanche soir,
édition spéciale Tour de France.
Vincent Parisot.
Oui, on fait des points complets, hein, régulièrement, hein, sur cette dernière étape du Tour de France. Les coureurs sont passés une première fois sur les Champs-Élysées. On retrouvera Christophe Pacaud dans quelques minutes. Je vous le disais dans les titres, tous les espoirs ne sont donc pas perdus pour les 863 salariés de l'usine Bridgestone de Béthune. Le fabricant japonais de pneumatiques, vous le savez, avait annoncé mercredi son intention de fermer purement et simplement cette usine en avril prochain, entraînant une levée de boucliers politiques et syndicales. Et voilà, à la mi-journée, la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui était l'invitée du grand jury RTL, Le Figaro LCI, a fait cette annonce qui change la donne et qui donne un peu d'air, un peu de temps pour la discussion.
Nous avons mis la pression très fortement pour faire bouger le dossier. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que les salariés, les organisations syndicales ont signé un accord de méthode vendredi qui d'abord donne 5 mois à la discussion et qui réouvre des scénarios alternatifs à la fermeture de l'usine. La direction est en train de s'engager dans un processus de négociation.
C'était pas acquis.
Non, puisque le scénario principal qui était posé sur la table, c'était la fermeture.
D'accord. Donc
de dire, je réouvre la possibilité de regarder des scénarios alternatifs, premier point, et de dire, je donne un temps à la discussion qui soit compatible avec l'examen professionnel et sérieux de ces scénarios alternatifs, c'est rendre cette discussion crédible. S'ils avaient dit, on a 2 mois pour trouver une solution, tout le monde aurait souri en disant « c'est pas possible ».
Cinq mois,
ça rend les choses possibles. Et nous allons venir en appui des salariés pour rendre cette discussion la plus professionnelle et efficace possible.
Voilà, 5 mois pour la discussion, donc, annonce de la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, ce midi sur RTL, au grand jury RTL, Le Figaro LCI. C'est donc un accord de méthode qui a été signé. Il va permettre de discuter de scénarios alternatifs à la fermeture. Que prévoit cet accord de méthode? Que représente-t-il pour les syndicats? Écoutez ce qu'en dit Sébastien Caron, il est le délégué FO de Bridgestone.
Dans l'accord de méthode, la direction, elle, n'avait envisagé que le projet de fermeture. Et nous avons réussi à négocier le fait de chercher des solutions alternatives, soit par reprise, soit par investissement. On va attendre demain de voir ce qui va vraiment être proposé. On sait clairement que le gouvernement ne veut pas négocier avec la direction locale de Bridgestone. Donc, eux veulent négocier avec la direction européenne et mondiale. On n'est pas, pour l'instant, dans l'optique de la fermeture. Quand on veut chercher des solutions, la direction nous dit qu'elle, de son côté, a cherché, mais nous a remis sur la table. Et nous, on veut croire qu'il y a encore possibilité de sauver les meubles.
Voilà, le délégué FO de Bridgestone, il y a la possibilité de sauver les meubles, dit-il au micro de Sébastien Caron. Allez, retour sur les Champs-Élysées, Christophe Paco, deuxième passage et la patrouille de France est de la fête.
C'est ça, c'est la fête, évidemment, au-dessus des Champs-Élysées, on craignait les orages. Ciel bleu, 27 degrés, vous êtes arrivé majestueux sur les champs pour célébrer un sacré champion qui aura tout juste 22 ans. Demain, pour le jeune Slovène, image traditionnelle mais image superbe au-dessus des Champs-Élysées, 5000 personnes seulement, vous le savez, hein, on a serré évidemment les boulons au niveau des entrées en cause de Covid depuis le début de ce tour. Il y avait une épée de Damoclès sur le tour. C'est déjà tellement beau que le tour ait pu faire ces 3 semaines sans encombre, sans embûche. Et on voit Thibaut Pinot qui s'emploie évidemment pour rester au contact. On va revoir tous les Français de ce tour. Le meilleur d'entre eux, bien sûr, c'était Guillaume Martin. Petite photo moto avec Nicolas Jean-Giraud pour son dernier tour.
Avec 8 coureurs qui sont en train de se détacher du peloton et notamment des coureurs de la formation Ineos comme Kwiatkowski qui a gagné l'étape il y a quelques jours. 8 coureurs qui comptent quelques longueurs d'avance sur le peloton.
Eh oui, parce que la moto RTL va devoir rentrer au garage parce qu'ensuite on va laisser les coureurs s'expliquer. On vous donne les petites astuces de ce métier évidemment. La moto va se retirer mais Nicolas Jean-Giraud, Raphaël Vantard seront avec nous évidemment pour commenter cette fin de Tour de France. Et avec vous, Vincent Paris.
Bah, évidemment, on va vous retrouver dans quelques minutes.
Bien sûr.
Vous pouvez en être certain, c'est une édition spéciale jusqu'à 20h. À tout à l'heure, Christophe.
RTL dimanche soir. Spécial Tour de France.
L'actualité, c'est aussi évidemment toujours l'épidémie de Covid-19. On attend pour demain des mesures de restriction sanitaire pour la ville de Lyon, après celles qui ont été prises pour Bordeaux et Nice. Ce sont les préfets, vous le savez, qui décident maintenant des mesures au niveau local pour être au plus près de l'évolution de cette épidémie. 13 500 nouveaux cas de Covid en 24 heures, annoncés hier soir. 75 députés de la majorité ont d'ailleurs lancé un appel à se faire vacciner massivement contre la grippe. Appel lancé dans le journal du dimanche pour éviter une cohabitation épidémique avec le coronavirus qui amènerait à une saturation des hôpitaux. Car aujourd'hui, et les chiffres au quotidien le démontrent, on peut clairement parler d'une deuxième vague. C'est ce qu'assure François Braun. Il est chef des urgences de l'hôpital de Metz et il est le patron du syndicat SAMU Urgence.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une augmentation de cas de Covid, de patients malades, que l'on voit dans les services d'urgence des hôpitaux de Toulouse, de Marseille, de Lyon, à Dijon et dans le Nord également à Lille. On voit qu'il y a une augmentation du nombre d'appels au SAMU et puis les services d'urgence d'une façon générale, hein, même dans des régions comme le Grand Est qui sont pour l'instant moins touchées, recommencent à avoir des cas de patients Covid qu'il faut hospitaliser. Ça me préoccupe parce que oui, on commence à arriver à flux tendu. Il faut surveiller ça de très très près et surtout faciliter les hospitalisations des patients à partir des urgences et encore plus des patients qui sont Covid positifs. Parce que c'est la difficulté habituelle des services d'urgence, malheureusement. On est revenu aux vieilles mauvaises habitudes avec des difficultés pour avoir des lits d'hospitalisation pour nos patients. Une difficulté que nous n'avions pas dans cette première vague puisque tout l'hôpital était concentré autour de ces prises en charge. Mais maintenant, il y a le fonctionnement normal de l'hôpital plus le Covid. Donc oui, c'est préoccupant.
Voilà, c'est préoccupant. On commence à arriver à flux tendu, constat donc dressé par le patron du syndicat SAMU Urgence et patron des urgences de l'hôpital de Metz, François Braun, avec Vincent Serrano. Et puis à l'étranger, sachez que la colère ne faiblit pas malgré la répression en Biélorussie. Une nouvelle manifestation s'est déroulée aujourd'hui à Minsk contre le président Loukachenko après sa réélection très contestée. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de la capitale. Vous savez qu'hier, la police avait arrêté des centaines de manifestantes, des femmes, puisque c'était un rassemblement essentiellement féminin. Allez, on marque une courte pause. On va évidemment refaire dans un instant, puisque c'est une édition spéciale consacrée à l'arrivée du Tour, un point sur cette ultime étape et ses boucles sur les Champs-Élysées. Mais on fera aussi le bilan des journées du patrimoine au palais idéal du facteur Cheval.
RTL, dimanche soir. Édition spéciale Tour.